Économie, environnement, société, vous en êtes où sur ces sujets? Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute!
Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie d'être parmi vous pour cette édition 2025 de Livre en Marche. Livre en Marche, vous le savez sûrement, c'est un festival de rencontres avec des experts, avec des passionnés. C'est un festival engagé qui essaime la matière à penser et souhaite interroger sur le monde que nous voulons construire demain. Quel espace notre culture et notre société offrent aux disparus? Comment vivons-nous avec nos morts? Vivre le deuil et interroger notre rapport à la mort, c'est le sujet aussi intime qu'universel que nous allons aborder tout de suite avec nos invités entre éclairage, partage, hommage aussi. Et c'est avec un vrai plaisir que je vous propose d'écouter Sandrine Chenivès, Vinciane Després et Marion Valeur. Bonjour à toutes les trois. Alors, on va commencer par une présentation et je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît, nous dire qui vous êtes. C'est tout pour le micro.
Bonjour, merci beaucoup d'être là, si nombreux. Donc, je suis Sandrine Chenivès, je suis anthropologue, sinologue, spécialiste du monde chinois, des religions chinoises et notamment du taoïsme et du chamanisme qui en fait partie. Et je suis aussi psychanalyste en transgénérationnel.
Et tu as écrit.
Et donc, je suis l'auteur de ce livre, La forteresse des âmes mortes, voyage initiatique dans les montagnes taoïstes, édité chez Actes Sud dans la collection Voix de la Terre.
Et ce livre, il a eu un prix?
Et oui, et ce livre vient d'avoir un prix, je ne suis pas encore habituée. Le 7 septembre, le coup de cœur du prix Piteas, le coup de cœur du jury du prix Piteas au Salon du Livre de Monaco. Voilà, le 7 septembre.
On continue avec toi, Vinciane.
Bonjour, je suis Vinciane Després. Je suis de formation philosophe. Et en principe, j'ai travaillé presque toute ma vie sur les vivants, enfin, sur les animaux et sur les champignons plus récemment. Et dans les débuts des années 2000, j'ai perdu quelqu'un, mais c'est ma sœur en fait, pour être plus précis. Et le sujet de qu'est-ce qu'on fait pour les morts et avec les morts, s'est imposé à moi. Et donc, j'ai laissé traîner cette idée pendant quelques temps, enfin même quelques années, en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, c'était en plus quelque chose d'assez nouveau et assez intéressant. C'était de rapatrier une question personnelle dans ma vie professionnelle. Et puis je m'y suis mise et j'ai commencé à dire aux gens, j'ai envie de travailler là-dessus. Et les gens sont venus à me raconter plein d'histoires qui me paraissaient tellement surprenantes, alors qu'on me disait toujours, si tu veux travailler sur les relations avec les morts, tu dois aller à Madagascar, tu dois aller en Afrique, tu dois aller à Mexico, enfin... Non, mais il n'y avait pas besoin d'aller très loin. Quoi. En Belgique et en France, il y a plein de gens qui font plein de choses pour leurs morts. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'en fait, je vais le dire très vite, ils les gardent vivants. Et donc, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Au bonheur des morts ». Voilà.
« Au bonheur des morts, les empêcheurs de penser en rond ».
À la découverte, oui.
Merci beaucoup. Marion, je tiens le livre pendant ta présentation.
Merci, c'est gentil. Bonjour, moi je m'appelle Marion Valère, je suis urbaniste et philosophe de formation et j'ai publié le livre « Redonner une place à nos morts » suite à une expérience professionnelle que j'ai eue puisque je me suis occupée des affaires funéraires à la mairie de Paris durant un peu plus de 2 ans et donc c'était assez particulier comme expérience et j'ai écrit ce livre la suite de ça et actuellement je dirige le pavillon de l'Arsenal qui est le centre d'architecture et d'urbanisme de Paris. Je vous invite aussi à venir voir nos expositions.
Merci pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Super. Vinciane, tu as commencé, tu as déjà fait le lien entre ton expérience personnelle et l'écriture de ces livres. Marion, Sandrine, est-ce que vous aussi, il y a un bout de cette expérience personnelle qui a façonné ou donné naissance à ce livre?
Oui, je crois que c'est souvent le cas hein, pour les personnes qui écrivent sur le deuil, sur la mort. Moi, effectivement, je me suis retrouvée, avant de travailler sur ce sujet, j'ai eu une expérience personnelle qui est que j'ai dû organiser l'enterrement de mon ex-belle-mère. J'étais assez jeune et je me suis retrouvée dans la situation qu'ont beaucoup de gens, c'est-à-dire que je n'avais jamais eu de transmission sur ce sujet. Personne ne m'avait jamais expliqué comment ça marche, quelles sont les différentes manières en fait, d'organiser des rituels funéraires laïques, quels sont les lieux, quelles sont les personnes à qui il faut s'adresser. Donc, comme tout le monde, je me suis retrouvée avec les pompes funèbres à répondre à des questions qui me semblaient un peu lunaires, 30 minutes après le décès de la personne. Et donc, cette réaction assez instinctive, en fait, quand c'est devenu mon travail, je me suis rendu compte qu'énormément de personnes vivaient la même situation. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune transmission sur ces sujets-là, qu'on devait prendre énormément de décisions dans des temps très courts et que ça ne nous permettait pas toujours, en fait, de vivre notre deuil comme on le souhaite, qu'on ne connaît pas toutes les possibilités et qu'on a besoin d'être plus accompagné dans ces moments-là, en premier lieu par le service public, mais aussi par des associations, des livres, tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'il y a vraiment une lacune dans la société sur ce sujet, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre aussi, pour partager cela.
Alors, La forteresse des âmes mortes, voyage initiatique dans les montagnes taoïstes, c'est un livre qui, en fait, reprend mes carnets de jeune ethnologue. J'avais 25 ans à l'époque, donc il y a fort longtemps, lorsque je commençais une thèse de doctorat sur la Malmore, en Chine. Donc la Malmore va peut-être revenir aussi sur ce terme, qui n'est pas souvent bien connu. Et donc, je suis partie, à la faveur d'une allocation de recherche du CNRS, je suis partie 4 années au Sichuan, au pied des contreforts tibétains, le long du fleuve Yangtze, dans un tout petit village reculé, pour effectuer cette enquête ethnographique qui en fait, m'a plongée dans un... Enfin, m'a forcé un brutal changement de posture, parce que, arrivant avec tous les enseignements universitaires, anthropologiques, notamment qui met en avant cette fameuse posture très paradoxale de l'observation participante, je me suis retrouvée devant le mutisme des populations locales, à savoir que j'arrive quand même en 90, au moment du tout début du renouveau religieux, c'est-à-dire à peine 14 ans après la fin de la révolution culturelle. Donc tout le monde est encore très très marqué, traumatisé. Parler du religieux, c'est encore pratiquement un interdit, c'est vraiment un balbutiement du renouveau. Et donc je rencontre... Surtout en tant qu'étrangère dans un petit bourg où jamais un étranger n'est venu, un grand mutisme et beaucoup de difficultés à réunir des informations. Et en fait, ce qui va bouleverser mon parcours là-bas, ça va être ce que j'appellerais un accident existentiel, pour ne pas dévoiler non plus tout le mystère de ce livre. Donc un grand moment de bascule et aussi d'effondrement intérieur qui va me propulser dans l'expérience. Voilà, donc l'expérience, c'est-à-dire d'être affecté par ce qu'il m'arrive, et que d'être affecté non seulement par ce qui m'arrive intérieurement, mais par la population à une certaine place, affecté à une certaine place, va me permettre, dans la rencontre de ces deux opacités, de devenir, malgré moi et à mon insu, l'objet même de ma recherche qui ne cessait de m'échapper. Donc ce qui va me permettre enfin d'accéder à cette matière-là, sachant que j'erre sur les frontières entre les deux mondes, hein, le monde visible et le monde invisible, le monde des vivants et le monde des morts, dans ce culte millénaire dédié aux Malmores, parallèlement au culte des ancêtres, qui eux sont les bons vivants de l'au-delà. Les Malmores, ce sont donc des êtres qui sont des maillons flottants, hors généalogie, parce que morts d'une mort qui est considérée par les vivants, par ceux qui restent, comme injuste, brutal, prématuré. Alors évidemment, il y a une question de perception aussi par rapport à ça, on pourra en reparler. Voilà, donc c'est le propos de ce livre. Et ce sont donc les carnets, donc tout le voyage intérieur, les carnets, mes carnets de notes, mes carnets d'écriture de terrain, que 30 ans plus tard, je publie. Donc le voyage intérieur, il y a à la fois le voyage ethnographique et le voyage intérieur, cette grande aventure existentielle et spirituelle.
Ce lieu, Sandrine, la forteresse des âmes mortes que tu évoques à Fengdu, c'est ça ? Tu dis que c'est un lieu de culte, c'est un lieu de guérison. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?
Alors cet endroit, c'est déjà un double lieu, c'est-à-dire que au IVe siècle de notre ère, il y avait un lieu mythique, une géographie imaginaire. C'est une géographie, c'est très important de dire que c'est une géographie, c'est une montagne. Et dans la version mythique du IVe siècle, qui en fait est issue d'un texte de haute littérature spirite, qui est l'équivalent de la Divine Comédie de Dante, c'est un chaman du IVe siècle, très puissant, qui est invité par les grands de la cour auprès de laquelle il officie, à aller résoudre dans l'au-delà des vendettas spectrales. C'est-à-dire qu'il y a des malmorts. Bon, c'est dans une Chine qui est un peu à feu et à sang. Il y a beaucoup de guerres entre les royaumes. C'est après l'effondrement des Han, donc l'équivalent de l'effondrement de l'Empire romain. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'affrontements, de guerres, d'épidémies, de famines. Et donc, on n'a aucune représentation, en tout cas dans le monde taoïste, de la mort. Les taoïstes étaient plutôt intéressés par nourrir le principe vital, la quête de l'immortalité physique. Et le bouddhisme est déjà là avec une vision assez structurée de l'au-delà, mais rien du côté taoïste. Et c'est là qu'en fait, dans une période où il y a beaucoup de messianisme, des prédictions d'apocalypse, qu'apparaît ce discours de ce chaman qui fait des grands voyages à travers ses transes dans l'au-delà et dont il ramène cette première vision d'un monde qui est une île-montagne située en mer du Nord dans laquelle vont les malmorts. Mais ce n'est pas un lieu de désespérance non plus, puisque le nom de Fengdu veut dire capitale de l'abondance. Donc c'est un lieu où on peut progresser et passer dans les sphères aussi de l'immortalité. Donc il y a ce lieu mythique sur lequel j'ai travaillé, qui est un texte très important du canon taoïste que j'ai traduit. Donc l'équivalent de la Divine Comédie de Dante, vraiment, c'est très très proche. Et puis, à partir du IXe siècle, il y a ce lieu saint qui apparaît sur les bords du Yangtze, au Sichuan, donc rien à voir avec le lieu géographique, qui va porter le même nom, alors qu'avant, ça ne s'appelait pas du tout comme ça. Donc, il y a comme une sorte de transposition de ce lieu mythique sur un lieu réel, une petite montagne, qui va devenir l'entrée du monde des malmorts. Et donc, au cours du millénaire, du deuxième millénaire, vont se développer des pèlerinages absolument spectaculaires dans lesquels les vivants vont rendre une sorte de culte à ces défunts malmorts pour, dans un esprit, dans une volonté, dans un espoir de réconciliation et qui donne à ce lieu une dimension... enfin, c'est un lieu qui est extrêmement chamanique de ce fait. Hein, le taoïsme et le chamanisme sont extrêmement proches. Le taoïsme a absorbé, lorsqu'il s'est structuré, tout le fond chamanique très ancien de la Chine. Et donc, on est éminemment, dans un lieu éminemment chamanique dans lequel les vivants vont à la rencontre de ces défunts virtuellement, puisqu'ils Ils, à travers le rituel de marcher dans la montagne, à travers une géographie sacrée qui représente chaque étape d'un voyage dans l'au-delà. Et en même temps, c'est évidemment un grand voyage de guérison. C'est comme un grand mandala. C'est à la fois un grand monument aux morts et un grand mandala dans lequel on peut aller soigner les symptômes. Et là, on est dans le transgénérationnel. Les symptômes qui émanent De ces liens qui ont pu être mal vécus, mal clôturés, de cet inachevé, de ce non-oubli qui hante les vivants lorsqu'on est face à des morts justement difficiles et douloureuses et qu'on peut donc associer à la malmort. Voilà, donc c'est un lieu effectivement qui se parcourt. On est dans une notion d'espace, ça rejoint aussi le travail de Marion sur ces lieux, l'importance des lieux pour célébrer les morts et célébrer en soi le vœu de vivre. Parce que c'est ça dont nous parle la mort, c'est du vœu de vivre pour ceux qui restent.
On vient d'entendre parler de la Chine, de cet endroit, de ce lieu de guérison aussi pour les malmorts. Si on revient en France, ça donne quoi ? Marion, comment on traite nos morts en France aujourd'hui ? Quel rôle jouent notamment les services publics, l'aménagement urbain ? Est-ce que ces espaces, ils existent ?
On les traite. La première chose pour moi, c'est que on traite les morts avec égalité. C'est le plus important. Il faut le rappeler. Notre culture de la mort, elle est insuffisante par énormément d'aspects, mais pour autant, on a conquis quelque chose. C'est l'égalité. C'est-à-dire que en France, tout le monde va être enterré. Tout maire a l'obligation d'enterrer une personne qui meurt dans sa commune, c'est extrêmement important, hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Les personnes qui se suicidaient dans le passé n'avaient pas les mêmes droits. Les personnes qui étaient sans abri n'avaient pas les mêmes droits. Donc voilà, le plus important, c'est déjà de rappeler cette égalité funéraire. Ensuite, je pense qu'il y aurait 1000 améliorations à faire en termes de lieux. Effectivement, Vincienne le dit aussi dans ses livres, hein, pour commencer le deuil, ça part d'un lieu. On a besoin d'un lieu pour savoir que le mort repose quelque part ou qu'il y a eu un moment de rituel. Et là-dessus, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les crématoriums qui sont construits en France ou les funérariums, moi, je trouve qu'en termes architecturaux ou urbains, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lieux pour la mort, parce que ce sont des lieux sacrés, même s'ils ne sont pas religieux. Je pense qu'ils méritent d'être des lieux sacrés. Et aujourd'hui, les crématoriums, pour beaucoup, ce sont des appels d'offres. On traite ça comme un peu n'importe quel bâtiment. Parfois, on a très peu de temps au crématorium. Ça va très vite. Ce ne sont pas toujours des beaux lieux. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit changer. Et de la même manière, pour les cimetières, il y a aujourd'hui une très forte demande pour que les cimetières soient des lieux plus naturels. Il y a des exemples à l'étranger de cimetières forêts, de cimetières où on est beaucoup plus lié à la nature. Et en France, les cimetières restent des lieux très minéraux. Et moi, je pense qu'on pourrait faire énormément de choses, que les maires, les élus locaux pourraient porter ces évolutions vers des lieux plus naturels, plus beaux. Il y a tout à faire, en fait, sur ce sujet.
Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Marion, je voudrais vous présenter quelques livres que vous retrouverez également à Livre en Marche. Le premier sujet que tu évoquais, c'était l'égalité face à la mort. Vous retrouverez à l'accueil de Livre en Marche, à l'accueil du salon, ce livre qui s'appelle Le coût de la mort, et une association qui est présente, donc il est juste là, tu peux lever la main aussi, Alban Baudouin, sur la sécurité sociale jusqu'au bout, c'est-à-dire comment la sécurité sociale peut accompagner jusqu'à ce moment de décès, d'enterrement, etc. Et puis une seconde personne qui est juste à côté, je la vois, elle s'appelle Sarah Najar. Et Sarah, elle a écrit deux livres. Elle est également présente sur le salon. Et elle parle en fait de ces personnes qui accompagnent dans ces lieux que tu viens d'évoquer, les morts et les vivants. Dans ce moment si particulier, tu les accompagnais pendant 2 ans, je crois. Et elle a écrit une BD et qui parle et qui montre ce travail incroyable que ces personnes font en France. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez aussi ces deux personnes qui sont présentes sur le salon. Je referme cette parenthèse et je reviens vers vous. Quand j'ai partagé le thème de cette conférence avec un certain nombre de personnes, une des réactions d'une personne qui s'appelle Pierre, ça a été de dire... Il y a cette phrase « Notre culture n'offre pas d'espace aux disparus ». Et sa réaction, ça a été de dire « Ah, je pense pas. Notre société n'en offre pas, mais notre culture, si. » Alors, je me suis demandé comment le rapport à la mort, il a changé historiquement. Est-ce que vous avez une explication et vous pouvez nous éclairer là-dessus ?
Moi, déjà, ce que je pourrais dire, c'est que je pense que jamais une civilisation comme la nôtre ne s'est négligée à ce point au niveau de la relation à ses défunts, on va dire peut-être depuis au moins 200 ans, enfin en tout cas depuis le siècle des Lumières, où on s'est vraiment coupé, éloigné fortement d'un des plus grands mystères de notre humanité, c'est-à-dire notamment la relation à la mort, à notre mort et à nos morts, contrairement à toutes les sociétés traditionnelles comme dans le monde amérindien, le monde africain, le monde asiatique, où la notion de transgénérationnel est toujours restée extrêmement vivante. Et donc, parfois, on me dit, ah, mais c'est incroyable comme tout d'un coup, ce regain du transgénérationnel dans nos sociétés, avec énormément de demandes depuis au moins une trentaine d'années, mais qui s'accroissent énormément actuellement. Mais je crois que la vraie question à se poser, c'est pourquoi le transgénérationnel avait aussi abruptement disparu de notre horizon. Et effectivement, je crois qu'on a aussi vécu une expérience collective d'ordre planétaire, qui est le Covid, avec toutes les conséquences que cela a pu avoir, avec chaque jour, qu'on soit touché de près ou de loin, l'affichage de listes de malmorts. Alors, on pourra revenir aussi sur cette perception de qu'est-ce que c'est que la malmort. En tout cas, de listes de morts et donc de malmorts, parce qu'avec cette notion de disparition soudaine, immédiate, prématurée, brutal, inattendu, et qui laisse, je pense, tout le monde désemparé, autant ceux qui restent que ces malmorts qui, dans la vision taoïste, se retrouvent arrachés brutalement à un cycle vital, à leur vitalité, et donc qui partent dans un entre-deux mondes, encore rattachés au monde des vivants par cette puissance vitale inépuisée, inachevée. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, Il y a beaucoup de demandes. D'ailleurs, la rentrée littéraire est très parlante. Et puis même depuis 2 ou 3 ans, on trouve beaucoup de livres absolument magnifiques sur la relation aux morts, à nos morts. Et je pense que ça nous parle de cette quête de sens fondamentale, de tout d'un coup, de se relier comme un grand retour de boomerang sur ce grand long déni de plusieurs centaines d'années. Pour revenir à cette question absolument fondamentale qui nous constitue pleinement.
Marion Vincier, vous aviez envie de réagir à cette question ?
Oui, la période qu'on vit en France, c'est un peu une anomalie, effectivement, dans le rapport aux morts. Alors, c'est dû à beaucoup de choses. Je pense qu'on n'a pas encore su vraiment construire une culture laïque avec les rituels dont les personnes ont besoin pour vraiment traiter nos morts autant qu'on le voudrait. Et puis, il y a vraiment la question des lieux, le fait qu'on meure à l'hôpital beaucoup plus, ce qui est une bonne chose d'un point de vue médical, évidemment. Mais là aussi, on n'a pas forcément su accompagner ce décès qui s'est déplacé du domicile vers l'hôpital, de tous les rites et de tout l'accompagnement nécessaire. C'est-à-dire qu'on a fait du moment de la mort un moment essentiellement médicalisé, en fait. Il faut se rappeler qu'avant, quand les personnes mouraient à domicile, c'était souvent un moment public. On invitait même les passants dans la rue à venir voir le décès. Et aujourd'hui, on est passé à une mort isolée en plusieurs petites étapes dans la chambre d'hôpital. Et c'est vrai que le moment du Covid a eu l'avantage, si je puis dire, de remettre la mort sur le devant et qu'on se rende compte de la violence que c'est de mourir sans rite et de mourir seul. En fait, au moment du Covid, on a dit mais c'est affreux, puisqu'effectivement, ça l'était, qu'il ne puisse pas y avoir de rite, que certaines personnes meurent seules. Mais finalement, ce dont on s'est rendu compte à ce moment-là n'est pas si éloigné de ce qu'on vit au quotidien. Et donc, je pense qu'on doit aussi repartir de ça pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on souhaite, en fait, au quotidien pour la mort ? Parce que, finalement, encore une fois, c'est un champ où on peut faire beaucoup de choses. La loi, elle ne permet pas tout, mais elle permet quand même un certain nombre de choses. Par exemple, sur où est-ce qu'on fait les cérémonies funéraires, on peut les faire plus dans la nature ou dans des théâtres, si on le veut. Donc, je crois qu'on doit s'emparer de ce sujet collectivement et laisser un peu de place pour faire d'autres choses.
Vinciane ?
Puisque le mot laïcité est lâché, je crois que je vais en profiter pour m'en dire dessus. Mais je suis belge et ma conception de la laïcité est évidemment n'a pas la même conception que la conception française, bien que mes collègues universitaires ont une conception de la laïcité française, mais pour des raisons universitaires, je crois. Et donc, moi, ça me permet d'avoir un regard relativement critique sur la laïcité. Je vais dire la laïcité en France, c'est plutôt, je dirais, je vais être un peu caricatural, mais l'éradication, l'éviction de toutes les particularités religieuses notamment. Alors qu'en Belgique, la laïcité, c'est le fait que tout le monde peut venir les mettre sur l'espace public. Et c'est la pluralité qui assure la laïcité. Et je pense que ça change pas mal de choses. Et je le vis même dans ma vie concrète. Dans la mesure où... alors, je vais reprendre quelqu'un qui est un psychanalyste. Donc, je me suis très peu servi pour ma recherche. Parce que je pensais souvent que les psychanalystes n'étaient pas tout à fait à la hauteur dans leurs écrits. Dans leurs pratiques, c'était formidable. Mais dans leurs écrits, c'était un peu tristouné sur la question du deuil. Par contre, Jean Allouche, le psychanalyste lacanien, a vraiment fait des choses formidables. Et notamment, il commence son travail pour remettre en question la conception psychanalytique laïque et matérialiste du deuil, parce que c'est là, évidemment, le point d'achoppement, où il dit « Il est temps que les psychanalystes se déprennent de l'habitude de penser que leurs propres croyances et convictions doivent être la vérité par rapport à celles de leurs patients. » Et donc, il va refaire une histoire et il va constater que cette forme laïque de la conception de la mort, où quand on est mort, on va vers le néant, on n'est plus rien, c'est quelque chose de très récent, ça date d'il y a 150 ans. Il dit que ça commence surtout avec Auguste Comte, avec le culte du souvenir des vivants. Ça veut dire quoi, le culte des souvenirs des vivants? Ça veut dire que vous intériorisez vos morts, et qu'ils n'ont donc plus d'autre existence que dans votre souvenir. Ce qui est une bonne manière de tuer un mort, en fait. De dire, plus d'existence, plus d'extériorité, plus d'effet dans la vie. Et il dit, nous sommes une culture extrêmement minoritaire. À ce niveau-là, il n'y a presque pas de culture qui pense que quand on est mort pour toujours. Et dit, c'est quand même un peu bizarre, donc d'où ça, le fait de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on essaye d'éduquer les gens à cette espèce de laïcité où quand on est mort, on doit être mort et on n'intervient plus dans la vie des vivants. Et donc, une fois dit ceci, je voudrais rattacher à deux petites choses, une chose personnelle et une chose par rapport à ce que disait Marion et par rapport à ce que tu disais, Sandrine. C'est, la première, c'est que je vais me rattacher ici à deux chercheurs que j'adore, qui sont Émilie H., la philosophe, et qui sont Grégory Delaplace, l'anthropologue. Alors la première, pourquoi ? Parce qu'elle a travaillé, elle a fait une très belle journée au mois de juin sur cette question, et elle continue à travailler sur ce qu'elle appelle les troubles dans la génération. Et c'est quoi les troubles dans la génération ? C'est notre incapacité à faire, encore je vais le dire très simplement, qui prend la forme de troubles dans la génération, qui peut prendre la forme de troubles dans l'inceste, dans le non-culte des morts, etc. C'est aussi des troubles dans la génération, mais au sens où elle va prendre génération, au sens où l'atour d'utiliser, c'est-à-dire on est devenu une société qui produit, mais qui n'est plus capable de générer. Et qu'est-ce que c'est générer ? C'est quand on fait quelque chose, on pense à la continuité de ce qui doit être fait. On plante des plantes, on cultive, eh bien on pense aussi à ce que la terre va pouvoir, d'une certaine manière, se régénérer, à ce que la terre va pouvoir continuer à donner, etc. C'est ça le trouble dans la génération, c'est devenu une espèce d'incapacité à penser à la continuité de la vie. Et c'est ça le trouble dans la génération, l'incapacité à assurer la continuité de la vie. C'est ce qui nous arrive pour le moment, c'est notre incapacité. On a vu hier dans la rencontre entre notamment Dominique Bourque, que je vois ici devant moi, donc ça mène. Ça c'est la première chose. Grégory Delaplace, à propos des mâles morts, c'est ça qui est intéressant, et on peut se demander d'ailleurs si le Covid n'a pas produit quantité de mâles morts, il dit, qu'est-ce que c'est qu'un fantôme ? Et il a une conception très nouvelle du fantôme, parce qu'on considérait toujours que le fantôme, c'était uniquement les mâles morts qui n'avaient pas trouvé leur place, et il dit, non, en fait, tous les morts sont des fantômes, au départ, et tout le travail des vivants, c'est de les transformer en bons morts, c'est-à-dire en ancêtres. Et comment, il est génial pour ça, comment est-ce qu'on transforme un fantôme en bon mort ? On l'éduque. On lui apprend à vivre. Et comment est-ce qu'on apprend à vivre un mort ? Par des rituels, par des cérémonies d'hommage, par des manières de s'adresser à lui, par la pratique des gestes qu'il faut. Et je trouve que c'est une super belle idée de poser démocratiquement, nous sommes tous des fantômes en puissance, et il va falloir que nos vivants, il va falloir éduquer nos vivants, maintenant, pensons-y, moi qui ai passé l'âge de la retraite, éduquer mes survivants à faire de moi un bon mort, c'est-à-dire avec une bonne place, qui ne vient pas pourrir la vie des vivants, qui ne vient pas les hanter, et qui les oblige à penser à la génération, parce que c'est aussi un rôle des morts. Ça, c'est le très beau livre de Robert Harrison sur les morts, qui disait, en fait, les morts, ils obligent les vivants à prendre soin et de la terre, etc., et ils viennent les houspiller, et c'est pour ça, disait-il, qu'on les enterre sous nos pieds, c'est pour leur permettre de faire ce travail-là. Et la troisième petite chose, si je peux encore, ou bien je deviens un peu longue. Je m'étais retenue jusqu'ici, maintenant vous allez voir, je vais flasher. Ah.
J'avais trouvé aussi...
C'est une stratégie, c'est une vraie stratégie.
Vinciane, est-ce que je peux rebondir quand même d'abord sur ce point-là et après je te laisse
continuer. Je vais raconter la mort de ma mère, c'était simplement ça.
Simplement ça ?
Simplement
bon,
ça.
Bon, bah raconte simplement voilà. La mort de ta mère.
Je veux dire, je parle du funérarium. Mon père est mort et c'était au funérarium et c'était vraiment abominable. Et j'ai trouvé ça d'un triste infini. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fabriqué ? Comment est-ce que j'ai pu faire un truc pareil alors que je travaille sur le sujet ? Je ne l'ai pas encore écrit, mais... Et donc, quand ma mère a décidé de mourir, parce que chez elle, comme je suis belge, et donc on peut décider, moyennant quand même certaines aides et certaines circonstances, donc on a décidé de bien préparer ça avec elle. Et donc, elle a demandé l'euthanasie et elle a dit, bon, mais vous voulez que je fasse ça où, à l'hôpital, etc. Et mon frère a une réflexion très juste, c'est ça. Il est plein d'humour, et même dans les circonstances où on pleurait, il était capable de... C'est ça, donc maman, tu vas mourir à l'hôpital, donc tu vas être morte, et puis on va fermer la porte, on va remonter dans notre voiture, et on va aller où ? Et c'est génial, quoi. Et on a dit, non, tu vas le faire à la maison. Et ce qui c'était vraiment génial, c'est qu'on l'a fait à la maison avec toute la famille qui était réunie, qui avait préparé un repas pendant que mon frère, ma sœur et moi, on était près de maman. Et pendant les 3 jours qui ont, jusqu'à l'enterrement, on est resté avec le cercueil à la maison. Et les gens passaient, venaient voir, venaient une petite pensée. On faisait un spaghetti, on ouvrait une bouteille de vin. Et on avait l'impression que maman participait à la fête. Je vous assure, c'est vraiment incroyable. Elle était dans la chambre à côté, on disait... On peut faire du bruit, elle s'en fout, elle aimait encore bien, elle avait l'habitude, elle a eu 5 gosses un peu supportables, dont nous. Et voilà. Et c'était quelque chose qui, pour moi, était extraordinaire. C'était cette possibilité, en effet, du mourir à la maison, qui est quand même pas pratique pour tout le monde et ce n'est pas toujours possible, mais c'est quelque chose qui change vraiment la donne, dans la mesure où on a vraiment eu l'impression qu'elle mourait progressivement, qu'elle s'en allait progressivement, et où tout le monde était là pour nous dire que, ben, qu'on l'aimait et qu'on n'était pas seul à l'aimer. Voilà. Mais je suis à l'écoute. Parlez sans crainte.
On le voit tout de suite, en fait. Nous sommes donc en train de parler d'un sujet qui est universel et en même temps, c'est profondément intime. Et on a tous des anecdotes et des choses que nous avons vécues ou nous avons entendues. Et j'ai envie de ça aussi sur cette conférence, c'est qu'on entre dans nos salons, dans nos vies, dans nos rêves, dans nos voitures, vous allez le voir. Là où les morts, parfois, continuent à nous rendre visite. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Vinciane, juste avant. Passer du mal mort au bon mort, enfin, comment on le fait passer? Et tu dis, on l'éduque. Et moi, ça me fait penser à un rêve. Un vrai rêve que j'ai eu, que je vous partage ici. Mon papa est décédé il y a 9 ans. Et souvent, je rêve qu'il revient dans mon rêve et que ma mère lui dit, écoute, c'est pas pratique. Non, parce que ça fait des années que t'es mort. Et là, expliquer, franchement... c'est pas possible, quoi. C'est pas pratique. Il vaut mieux que tu meurs pour de vrai, parce que là, vraiment, c'est pas bien. C'est ça d'éduquer un mort, en fait. C'est de lui dire, écoute, maintenant, il faut y aller, monsieur.
Je veux dire, c'est très bien, parce qu'en fait, ça manifeste. Je peux te répondre, qu'on a peu préparé. Bon, je vais pas faire semblant que c'est tout nouveau, que ça vient de sortir. Il y a deux manières de le prendre, en fait. La première, c'est de rappeler, en effet, puisque c'était à propos d'une anecdote. Enfin, une histoire que m'a racontée une de mes amies quand je lui ai dit que je travaillais là-dessus, mon amie Renée Grotte-Classe, qui était la femme d'un photographe. Je le signale en passant, parce que si un jour vous voyez ces photos, c'est des photos magnifiques. Et Hubert est mort à 52 ans d'une crise cardiaque, la laissant avec ses 3 enfants. Et pendant plusieurs nuits, il s'est mis à venir la nuit la retrouver. Alors je lui ai dit, mais t'as fait quoi? Je l'appelle Ninette, elle s'appelle Renée, mais je l'appelle Ninette. Ah, t'as fait quoi, Ninette? Elle m'a dit, ah non, mais je lui ai dit, moi, je lui ai dit, écoute, Hubert, tu es mort. Tu nous as déjà fait un sale coup, tu nous as mis dans le pétrin, les filles et moi. Alors maintenant, ça suffit. Tu choisis, ou bien tu es vivant, ou bien tu es mort, mais tu ne restes pas comme ça entre les deux. Et j'ai dit, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il n'est plus revenu. Et c'est ça, éduquer un mort, en fait. Et je trouve que c'est assez admirable la façon dont Ninette a pris au sérieux son expérience. Elle aurait pu se dire, merde, je deviens folle. Parce que je vais dire ce que je disais à propos de ta maman, c'est une remarque pragmatique qui montre que le milieu toxique dans lequel nous évoluons par rapport à la conception que nous avons des rapports avec les morts n'est pas totalement efficace. Heureusement, il y a des gens qui continuent à avoir des réactions très saines, de dire « c'est pas pratique ». Et ça me rappelait par exemple que Christophe Pons en Islande, qui a fait une super belle recherche comme ethnologue chez les Islandais, qui ont un rapport beaucoup moins toxique, enfin, qui vivent dans un milieu beaucoup moins toxique, j'entends par toxique, hostile à ce que les gens peuvent vivre et penser et dont ils font l'expérience, c'est que par exemple, quand un enfant dit, ce qui arrive très souvent aux enfants, il y a quelqu'un dans ma chambre, sous-entendu, un mort évidemment, les parents, au lieu de lui dire ce qu'on dirait nous à nos enfants, mais non, tu rêves, tu imagines, ce qui n'a rien pour rassurer l'enfant, parce qu'à ce moment-là, il est très seul face à l'expérience, parce qu'en plus, il se dit, mais merde, je suis seul à le savoir. Donc, soit je suis fou, soit mes parents sont complètement idiots et ne vont pas m'aider. C'est on dit à l'enfant, demande-lui qui elle est et demande-lui ce qu'elle veut. Et généralement, l'apparition à ce moment-là, soit s'explique, soit ne s'explique pas, mais ne vient plus faire peur à l'enfant. Et ça, c'est des choses, c'est du pragmatisme. Et je trouve que la remarque de ta maman, telle que la réaction de ma copine, mais c'est fabuleusement pragmatique. Et c'est une façon d'éduquer les morts. Ça veut dire quoi? Dans toutes les cultures, il y a porosité entre le monde des morts et des vivants, mais les morts n'ont pas le droit de venir faire irruption comme ça, et s'ils le font, ils transgressent. Ça veut dire qu'ils sont mal éduqués.
Oui, c'est d'ailleurs le but des rites, depuis toujours, des rites funéraires et des rites mortuaires, c'est de consolider ces frontières qui sont marquées d'une grande porosité, de par justement la question de l'arrachement des deux côtés. Pour les vivants, ceux qui restent, et pour les morts, qui sont brutalement arrachés à leur vie et à leurs proches, à leurs aimés. Et peut-être je voulais témoigner aussi, de revenir à mon expérience, parce qu'on peut se demander qu'est-ce que faisait une jeune fille de 25 ans justement sur ces frontières de l'au-delà et dans un domaine aussi lointain, un ailleurs aussi lointain que celui de la Chine. Et voilà. Donc moi, quand j'ai choisi ce sujet... ma thèse s'appelait Le Mont Fondou, une géographie émergée de l'au-delà. C'est un titre absolument étonnant et je ne sais pas du tout, je n'avais aucune notion, enfin j'étais complètement happée par cette recherche. par cette quête, par ce sujet, sans avoir aucune notion de conscience de ce que je faisais. C'est-à-dire, souvent, comme le disait Marion, on travaille sur des sujets qui ne sont évidemment jamais anodins, quelle que soit notre discipline d'ailleurs. Et en fait, c'est bien des années plus tard que j'ai compris ce que je faisais là. C'est-à-dire que donc, j'ai passé 4 années à errer sur ces frontières, à faire cette recherche et à vivre cet accident existentiel dont je pourrais peut-être juste dire quelques mots, c'est que je me suis retrouvée en fait en lien avec un mal mort. C'est-à-dire que j'ai eu une rencontre très très brutale avec un mal mort qui m'a investie. Moi, je ne pouvais pas tout à fait déterminer ce qui m'était arrivé, mais du coup, je suis devenue la patiente de différents patientes entre guillemets. C'est un mot peut-être un peu occidentalisé, mais de différents personnages qui pouvaient être des médiums, des chamans, des maîtres des rites, que ce soit à Taïwan ou en Chine, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait et surtout essayer de me sortir d'affaires parce que j'étais tombée dans un sacré gouffre. Mais ce n'est que des années plus tard que j'ai compris effectivement que si je faisais tout ce voyage et cet immense détour par ces lointains et par ces lieux, cette prise de risque importante, parce que je suis arrivée là non préparée, non vraiment consciente de ce que je faisais là, c'est qu'en fait, 3 ans auparavant de commencer cette recherche, je venais de perdre ma mère de manière absolument terrible, extrêmement dramatique et traumatique. C'est pour vous dire à quel point on peut être aussi dissocié. Il y a un moment de dissociation face à l'irreprésentable. C'est-à-dire comment se relier à ces êtres aimés, à ces disparus, lorsque ça se passe, notamment dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà. Et bien moi, ma manière à moi d'essayer de penser l'irreprésentable, ça a été donc de manière totalement inconsciente d'aller faire ce grand parcours, cette grande recherche qui dure 7 années de travail intensif avec la maladie, l'effondrement dont je parlais tout à l'heure, qui vient au milieu. Et la peur même de mourir, je dirais ça, de mourir de mon terrain, le terrain étant le terme dans le jargon ethnologique de passer un certain temps sur le lieu qu'on étudie, pour comprendre en fait que c'était ce qui me permettait d'essayer de me représenter ce que pouvait être cette disparition et peut-être de contacter justement ma mère, de rester en présence ou de reconstruire avec elle un nouveau lien, ce qui en fait n'a été possible que très récemment, à la faveur de la sortie de ce livre qui vient raconter justement toute l'histoire intérieure, contrairement à tous les articles académiques, les conférences que j'ai pu faire et qui jamais n'évoquaient cette intimité-là. C'est dans ce livre que finalement je me résous à transmettre et à rendre visible la véritable expérience qui sous-tend tout le travail de cette thèse. Et que là, la rencontre se fait, c'est-à-dire vraiment presque une trentaine, même plus, presque une quarantaine d'années après ce drame. Et c'est vrai que j'ai le sentiment tout d'un coup de pouvoir vraiment la tenir par la main, de pouvoir l'embrasser, de pouvoir sentir sa présence en permanence et d'être emmenée partout avec elle à travers ce livre qui a une vie extraordinaire qui me dépasse complètement. Voilà, c'était tout à fait inattendu et c'est ce que je comprends encore aujourd'hui au fur et à mesure des expériences que je vis avec ce livre.
Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. On va continuer donc dans ces récits intimes et comme je vous le disais, ça fait 15 jours que je parle du fait que j'anime cette conférence et il y a des personnes qui viennent me voir aussi spontanément, peut-être un peu comme tu le disais, Vinciane, qui viennent raconter des histoires. Et moi, je voudrais vous partager du coup des mots d'êtres humains qui sont venus me dire des choses ou qui m'ont écrit. Il y a Maëlle qui m'a écrit « Dans les jours et mois qui ont suivi le décès de ma fille, j'avais besoin de chercher et de trouver des signes d'elle. Pour me rassurer sur le fait que je ne l'oublierai pas, pour me rassurer qu'elle aussi continuait de penser à moi et à veiller sur moi. Un besoin absolu de préserver ce lien aussi fort en intensité qu'il a été court dans le temps. Je voyais dans la lune son visage qui envoie un bisou, les étoiles filantes devenaient un coucou enthousiaste, le coucher de soleil qui rend les nuages roses m'apportait la douceur de ses câlins et très souvent, des papillons blancs accompagnaient mon chemin et ils étaient assurément pour moi ses messagers. Est-ce que la lune brillait désormais plus fort? Est-ce qu'il y avait plus d'étoiles filantes? Est-ce que le ciel était plus souvent rose? Est-ce qu'il y avait davantage de papillons qui m'accompagnaient? Ou est-ce que ce deuil m'avait donné de nouveaux yeux pour mieux voir ces merveilles de la vie, un peu des deux sûrement? Cette petite fille, elle s'appelait Célène. Moi, la question que je me pose, c'est on a besoin de ça, de ces signes pour vivre avec nos morts pour continuer à les faire vivre?
Alors, je ne peux pas en parler de manière générale, évidemment, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas de rapport avec leurs morts et qui ne veulent pas en entendre parler, qui n'ont pas envie de continuer la conversation avec eux. et ça n'en fait pas des mauvais morts pour autant. Je veux dire, quand Bruno Latour, je lui avais envoyé deux fois mon livre. Une première fois, il n'avait pas répondu, donc il ne l'a pas reçu. Une deuxième fois, je me suis dit, il y a un lézard. Donc je lui ai dit, tu as reçu mon livre, tu l'as lu. Et tu ne l'as pas aimé, Bruno, qui était si poli avec moi. Il m'a dit, mais tu sais, non, je n'ai pas beaucoup aimé ton livre. C'est, parce que mes morts, je n'ai pas de rapport avec eux. Et donc, si Bruno me... Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui... Voilà, donc...
Tu as dit des bons morts, mais ce sont aussi des bons vivants. Enfin, je veux dire,
oui,
ça
oui,
n'empêche
tout à fait.
Rien.
Oui, oui, ça n'engage rien. Et puis, les gens sont très contradictoires sur cette question et on va y revenir. Parce que Bruno a beau avoir dit ça, il dit, non, pour moi, il n'y a pas... Voilà, il n'y a rien après la mort, etc. Il a quand même dit à Chantal, juste avant de mourir, je te ferai un signe. Donc voilà, enfin, c'est ce que Chantal m'a raconté. Je dis, bon, il nous aura toujours eu celui-là. C'est incroyable. Et voilà, bon, alors, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que cette dame, cette maman raconte. C'est d'abord, la vitalité à laquelle on renoue une fois qu'on commence à s'intéresser aux signes. Et je pense que les signes, c'est tout un travail psychique qui est... Alors, ça n'empêche pas que les signes puissent exister. Je suis absolument agnostique sur cette question. Ce que je dis, c'est que le signe oblige à un travail psychique, parce qu'on ne les détecte que par un travail psychique, c'est-à-dire un travail d'extrême attention réelle et un travail d'extrême attention à des connexions que normalement on ne voit pas. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un mort, ben, vous allez voir, par exemple, trois fois la même colombe. Au moment où la personne meurt, au moment où on la met dans son cercueil, et trois jours après, au moment où vous êtes en train de pleurer en pensant à elle, et que justement une musique passe que vous aimiez tous les deux. Je prends des exemples qu'on m'a souvent racontés. Donc c'est un travail de remise en connexion qui, à mon avis, au niveau psychique, doit être terriblement bénéfique pour remettre le vivant dans des affects de vitalité. Et donc le signe qu'on peut considérer comme des formes de superstition, mais moi je suis agnostique, je dis ben non, les signes existent peut-être vraiment, je ne sais pas ce que font les morts, je n'ai aucune idée, ça ne fait pas partie de ma sphère de possibilité de connaître. Je dis simplement, les signes, en tout cas, remettent la personne dans des affects de vitalité. Mais au moment où tu citais ça, je me suis rendu compte de quelque chose, que ça faisait écho à quelque chose que je connaissais dans ce qu'elle disait, cette maman. C'est, est-ce que la lune brille plus fort, est-ce que les étoiles, etc. Je dis, ah putain, mais c'est... Pardon. Emporté par l'enthousiasme, je renoue avec ma grossièreté belge primitive. Est-ce que... Ça ressemble quand même drôlement à quelque chose. Quand on tombe amoureux, vous vous rappelez, quand on tombe amoureux, la lune brille plus fort, les étoiles sont plus scintillantes. Souvenez-vous. Quand on tombe amoureux, les choses changent. Il y a des choses qu'on ne voyait pas et qu'on revoit. Comme si le monde était remis à neuf. C'est ça la définition de l'émission par Michel Guérin. C'est quelque chose qui remet le monde à neuf. Et tomber amoureux rend cette expérience absolument immanquable, inévitable et tellement remarquable qu'on ne l'oublie pas une fois que ça vous est arrivé. Et qu'est-ce que l'amoureux se pose comme question? Exactement la même question que cette maman se pose. C'est-à-dire, est-ce que c'est la lune qui brille plus fort ou est-ce que j'ai de nouveaux yeux pour les voir? Et ça, c'est extraordinaire de la lucidité des personnes. Toutes les personnes, là je fais une généralisation, et je sais qu'elle n'est pas abusive parce que je n'ai pas eu de contre-indication là-dessus, enfin, pas de contraste, c'est toutes les personnes à qui ces expériences de signes arrivent posent exactement la même question en disant, je sais bien que c'est peut-être mon imagination, que c'est peut-être mon besoin d'être consolé, que c'est peut-être parce que je ne suis pas dans un état normal, comme quand on est amoureux, et je sais bien aussi qu'on ne sait pas si les morts n'interviennent pas et n'ont pas cette capacité-là. Et toutes les personnes qui m'ont raconté leurs histoires racontaient une double histoire en même temps, exactement comme cette maman, c'est-à-dire la possibilité d'être dans le doute. Et je pense que c'est ce doute qui est un moteur qui rend la relation, qui maintient la relation avec le mort vivante. C'est tant qu'on n'a pas clôturé la question « est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui ?», la relation, elle reste extrêmement vibrante. Et c'est vraiment très intéressant parce que dernièrement, j'ai une de mes amies qui me parlait des croyances et des croyances. Et vraiment, je suis une latourienne, on ne peut pas dire qu'on croit. Enfin, ça va. Il y a beaucoup de raisons philosophiques pour lesquelles il vaut mieux éviter le terme de croyance en anthropologie et même en épistémologie. Et je me suis rendu compte, en fait, je lui ai dit, écoute, si tu veux vraiment garder ton terme croyance, garde-le. Mais sache que moi, j'ai beaucoup rencontré de gens qui étaient des matérialistes positivistes, etc. Ben, ils croient qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et ben, ils sont beaucoup plus rigides sur cette croyance que les gens qui ont des doutes sur cette question. Et donc, garde le terme croyance parce qu'il sera chargé de pouvoir le potentiel destructeur de sa propre, enfin de la conception croyante, si tu le gardes dans ces cas-là, c'est que les gens qui sont persuadés qu'il n'y a rien après la mort et qui pensent que les gens qui pensent quelque chose après la mort sont des cons, des primitifs ou des superstitieux, il faut penser que leur croyance est beaucoup plus rigide que les gens qui pensent qu'il y a peut-être quelque chose parce qu'ils disent peut-être et parce qu'ils sont tout le temps en train de retourner le problème dans leur tête, ce qui, à mon avis, garde toute la relation, et là je répète, c'est très important pour moi, ça garde la relation vivante avec les morts.
Merci pour cet éclairage. Je continue avec des anecdotes. Alors, encore une anecdote de deuil périnatal. Elle s'appelait Elaya. Elle est décédée un 12 juillet. Et ses parents, chaque 12 juillet, ils vont au même endroit dormir à la Belle Étoile. Et le lendemain matin, ils pensent à elle au moment du coucher du soleil et du lever du soleil. Et la particularité de cette histoire, c'est que les parents de cette petite fille, ils ont une nouvelle petite fille. Ils ont une autre petite fille, là, qui est arrivée, qu'ils ont adoptée. Elle s'appelle Lina. Et c'est pour la première fois, ce 12 juillet, ils ont amené Lina avec eux et ils ont fait se rencontrer, d'une certaine manière, Lina et Elaya. Et ils m'ont dit que c'était comme une nouvelle étape de faire se rencontrer leurs histoires, de raconter l'histoire de l'une à l'autre et inversement, et que ça leur a fait du bien, surtout. Et la question que j'ai envie de vous poser là-dessus, c'est finalement ces hommages, ces cérémonies, ces symboles, ces rites, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient religieux, qu'ils soient autres, on en a besoin, non, pour arriver à vivre son deuil? J'ai pas dit faire son deuil, et on y reviendra.
Oui, l'exemple du deuil périnatal que tu cites, il est important parce que c'est un des exemples sur lesquels, en fait, il y avait un vide dans la société, puisque souvent, il n'y avait pas de lieu dans les cimetières, en fait, pour le deuil périnatal. Et c'est un des exemples où le service public peut faire des choses. Par exemple, maintenant, au cimetière du Père-Lachaise, il y a un espace dédié au deuil périnatal et c'est à la fois peu et beaucoup, parce que je crois que c'est essentiel pour les familles. Elles peuvent aller autour de cet espace, elles se retrouvent aussi. Et en fait, il y avait voilà, des vides complets dans la société sur certains sujets. Et donc, moi, je crois beaucoup aux services publics pour accompagner et pour aussi traiter de tous les deuils qui sont importants pour nous. Et c'est pour ça que, en fait, le sujet des affaires funéraires, c'est un sujet passionnant parce que c'est vraiment un miroir. C'est un miroir de la société. Quand on travaille dessus, en fait, on touche à tous les autres sujets de la société. Je parlais d'égalité tout à l'heure. Moi, j'ai été vraiment très touchée par le travail aussi de l'association qui s'appelle Les Morts de la Rue. Quand j'ai découvert vraiment le dévouement de ces bénévoles qui organisent des cérémonies funéraires pour des personnes qui n'ont plus personne. Et ils ont beaucoup de slogans que je trouve magnifiques, dont celui que je cite dans mon livre « Chacun était quelqu'un ». Et ils organisent voilà, ces cérémonies. Alors, en région parisienne, ça se passe au cimetière de Thiers. Ils y vont, ils font une cérémonie pour ces personnes et c'est extrêmement important. Donc, il y a le service public, mais il y a aussi vraiment toutes les associations qui travaillent autour pour s'assurer que, en fait, chaque mort a une dignité. Et la façon dont on s'occupe de nos morts, ça dit toujours beaucoup de notre société. Et c'est extrêmement important d'assurer à chacune, à chacun, une dignité. Je pense aussi à tout le travail qui est mené par des associations pour les personnes migrantes qui meurent en mer, qui n'ont souvent pas d'hommage du tout. Et heureusement qu'il reste quelques associations, qu'il reste quelques personnes qui se soucient du sort de ces morts-là.
Alors moi, j'aurais peut-être envie de revenir justement sur ce très important rite qui consiste à un voyage dans l'au-delà. Donc, dans ma double posture de à la fois anthropologue et de psychanalyste en transgénérationnel, donc j'ai déjà évoqué les voyages dans l'au-delà sur le mont Fondou, virtuellement, rituellement, et puis ce chaman du 4e siècle qui fait ses voyages pour aller contacter ses morts et les relier, leur permettre de se relier avec les vivants et vice-versa. Et je constate que c'est aussi ce travail-là que je fais avec mes patients au cabinet, lorsque l'on travaille sur cette très grande feuille sur laquelle ils vont élaborer peu à peu leur arbre psychogénéalogique sur laquelle ils vont tracer les noms d'ancêtres, parfois pas du tout connus, qu'ils découvrent au fur et à mesure de petites recherches d'état civil, avec des dates, avec des noms, avec des, un peu comme sur des tombes. Et tout en faisant ce travail, ce n'est pas du tout un travail anodin de simplement tracer. Tracer, c'est aussi contacter. Et donc, il y a une connexion très puissante qui se fait, puisqu'ils se situent eux-mêmes dans cet ensemble-là. Et c'est, je prends toujours la métaphore pour parler de l'inconscient familial collectif, d'un tissu, un tissu transgénérationnel vibratoire sur lequel voilà, vont circuler certaines informations et des messages. Donc, il suffit de toucher un petit bout du tissu en connectant deux, trois ancêtres pour que l'ensemble du tissu soit agi, d'autant plus que l'on travaille dans ces cas-là, on contacte aussi des mémoires agissantes et quand les patients viennent, c'est parce qu'on parlait justement des signes qui nous permettent de nous relier, mais il y a aussi une autre forme de signes qui sont des troubles, des symptômes ou des répétitions de certains événements. Il y a quelque chose, voilà, il y a des mémoires qui restent vivantes et agissantes. Des mémoires souvent qui sont reliées à des traumatismes qui n'ont pas pu être accompagnés ou élaborés ou consolés, etc. Et qui vont se rappeler à la mémoire des descendants sous la forme de troubles, ce qui va amener donc les personnes à consulter, à se poser beaucoup de questions, à essayer de trouver du sens. Et donc c'est le grand voyage dans l'au-delà, parce que ce que génère ce travail, ce sont souvent des synchronicités absolument étonnantes, tout à fait particulière, où tout d'un coup, voilà, dans les rêves vont arriver des messages. Je travaille aussi beaucoup avec l'écriture automatique, qui est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup travaillé aussi sur le terrain en tant qu'anthropologue dans le taoïsme et le chamanisme, qui sont étroitement liés. Et donc, je travaille avec les patients aussi en écriture automatique, et c'est absolument extraordinaire ce qui arrive dans ces sortes de lettres ou messages de l'au-delà. Je travaille aussi avec des photos. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'une partie des signes, ça peut être justement le symptôme qui vient nous rappeler qu'il y a un devoir de mémoire ou un devoir de connexion, ou voilà, qu'il y a un lien de vie qui n'a pas été maintenu et donc qui amène les patients à recréer ce lien de vie avec leurs aimés, leurs disparus, et même des disparus qu'ils n'ont donc jamais connus, qu'ils vont découvrir à travers ce travail.
Moi, il me semble qu'il y a quelque chose de très joli dans cette histoire, c'est que en fait, le problème d'un enfant très jeune, mort, et même jusqu'à un certain âge, c'est très difficile de transformer un enfant ou un adolescent en ancêtre. C'est dans beaucoup de familles, on se rend compte, mais qu'est-ce qu'on fait de ce mort-là? Quelle place lui donner si ancêtre, ça ne va pas pour un... Voilà. Et donc, ce que ses parents ont fait, je trouve qu'il est très malin, mais comme ça, je dis ça intuitivement et je ne suis pas clinicienne, c'est remettre cet enfant dans une filiation et dans une lignée. C'est-à-dire, plutôt que d'être un enfant, simplement un enfant mort qu'on pleure, elle devient la petite sœur ou le petit frère, enfin, je ne sais plus, elle devient la petite sœur ou la grande sœur, ou la petite, parce que, justement, la question de la temporalité, elle va jouer d'une manière, est-ce qu'elle continue à grandir, cet enfant, donc elle est la grande sœur puisqu'elle était là avant, est-ce que c'est son statut d'aîné qui vient, ou bien est-ce qu'elle sera toujours la petite, et que sa petite sœur aura, d'une certaine manière, la chance, parce que moi je pense que c'est, si c'est pas trop lourd pour cette petite fille qui a été adoptée par après, de veiller sur elle et d'avoir cette grande sœur ou cette petite sœur qui sera d'une certaine manière, qui fera acte de présence, plutôt d'être complètement cachée par le chagrin, parce que c'est ça aussi, arriver avec des parents complètement en deuil, il y a un chagrin qui peut pas se dire et tout, ce que ses parents font avec cette petite fille pour lui faire partager ça. Et c'est justement faire que ce deuil ne soit pas du tout quelque chose de caché, mais quelque chose où on peut en parler. Et où... Donc, elle l'a réinscrit dans la filiation et dans la lignée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je voudrais faire référence ici à un travail très, très beau qui est celui de Magali Molinier, qui est une ethnopsychiatre. Enfin, elle a fait de l'ethnopsychiatrie chez Toby Nathan. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Soigner les morts pour guérir les, Soigner les morts pour guérir les vivants. Et. Elle évoque dans ce livre, mais plus particulièrement dans un autre article qui est vraiment bien fait, quel est le rôle des cérémonies d'hommage. Et en fait, la cérémonie d'hommage est très jolie. C'est pourquoi est-ce qu'on vient parler? Pourquoi est-ce qu'on vient raconter des choses? Voilà, c'est quand même... Bon, alors, on peut prendre toutes les théories de l'anthropologie classique, Bloch et Paris, et c'est vrai, ça marche bien. Hein, les théories de Bloch et Paris, ce sont des rituels qui permettent de renouer avec la vie, de régénérer la vie, de dire que la vie reprend, etc. Mais elle veut prendre une position, elle, de psychologue, parce que c'est comme ça qu'elle travaille, d'ethnopsychiatre, et elle dit... En fait, si on parle des morts comme on en parle en disant « Ah, oh, mais tu te rappelles le jour... » On parle aux morts, hein, comme ça. Toi, vous avez déjà vu ça, une cérémonie d'hommage. Ou bien « Il était... » Et puis, on raconte des trucs marrants à son sujet, etc. à un tel point que moi, la dernière fois que je suis allée à un enterrement, c'était celui d'un de mes grands amis, j'ai entendu sa sœur dire dans le cortège après, quand on rejoignait le cimetière, « Bon Dieu, on ne le connaissait pas ». Et c'est juste, et c'est exactement là où la cérémonie d'hommage a marché. C'est-à-dire que chacun vient raconter une partie de la vie du mort qu'il connaissait, et cette partie de la vie du mort, d'autres ne la connaissaient pas. Et donc, en fait, ce que dit Magali Molinier, enfin, je vais dire ça avec mes mots, on rend le mort plus épais, plus dense, et sa subjectivité bien plus complexe et plus importante. Et en fait, il va pouvoir accompagner les vivants de meilleure manière, de manière plus présente, et sur un mode parfois joyeux, parce qu'il y a des anecdotes, beaucoup d'anecdotes comiques qui sont racontées à ce sujet-là, à ce propos-là. Et une cérémonie d'hommage, donc ça commence déjà à éduquer le mort, dirait Grégory de la Place, ou en tout cas à l'instaurer, pour parler comme souris. On instaure le mort et il va rester longtemps avec nous, mais bien épais. Voilà, un mort bien épais. Voilà, c'est que c'est un bon mort. Un mort bien dense et bien épais. Et je trouve que c'est assez joli parce que ce que font les parents, c'est en deuil périnatal, il y a pas, le mort n'est jamais très épais, il a à peine vécu. Donc tout ce qu'il représente, c'est des projets de vie, ce qu'il aurait pu devenir. Par contre, commencer à lui créer un passé en créant des relations avec d'autres qui ne l'ont pas connu, moi je me dis on lui donne de l'épaisseur. Enfin, c'est intuitif, hein, chez moi je me trompe peut-être complètement, mais j'ai l'impression qu'on lui donne de l'épaisseur et que c'est vraiment très très malin ce qu'ils ont fait, ses parents.
Merci. Je voulais juste rajouter, c'est qu'effectivement, Vincent a complètement raison, c'est-à-dire que dans la filiation, un jeune enfant comme ça qui disparaît, on lui donne une place, c'est-à-dire dans l'arbre généalogique, on lui donne une place, c'est-à-dire qu'on va même inscrire dans les fratries des fausses couches, des enfants morts-nés ou des enfants ou des avortements, et ils ont leur place dans la fratrie, c'est-à-dire qu'on pensait être le troisième enfant de la fratrie, en fait on est le cinquième quand on fait ce travail. Et donc d'où, enfin, ça rejoint complètement ce que vient de dire Vinciane, c'est que l'importance de donner la place et d'inscrire dans la filiation les êtres trop tôt disparus.
Je voudrais revenir sur quelque chose, Vinciane, que tu fais beaucoup depuis tout à l'heure, c'est mettre de l'humour et de la légèreté dans un sujet qui ne l'est pas toujours. Et je pense à une anecdote qu'on m'a partagée, une manière aussi de faire vivre nos morts. J'ai Marine qui me dit, moi de toute façon, à chaque fois que j'arrive dans un parking et que je trouve pas de place, et que je trouve une place très très vite, je dis merci papa. Et est-ce qu'on a le droit d'être léger avec la mort de nos proches, avec nos morts? Est-ce qu'on peut s'autoriser à ça?
Je vais revenir peut-être à Jean Alouche, hein, déjà ici. Je nettoie le tout. Je reviens à Jean Alouche qui disait que dans les enterrements où il n'y avait pas d'angoisse, c'est important, pas d'angoisse. Et les enterrements où il n'y a pas trop d'angoisse, c'est les enterrements de gens qui ont bien vécu, donc qui ont accompli leur vie, qui ont fait tout ce qui, plus ou moins, même s'il leur restait quelques projets. Les enterrements pleins d'angoisse, c'est les enterrements de personnes jeunes ou d'enfants. En fait. Donc dans les enterrements où il n'y a pas beaucoup d'angoisse, il y a toujours un incident, et un incident de l'ordre du burlesque. Il y a une grosse dame qui tombe dans une tombe qui est restée ouverte. Non, ça arrive tout le temps, des trucs comme ça. Je pense que tu dois savoir, tu nous en raconteras. Il y a des verres qui pètent dans la main d'un invité, on me l'a raconté, et deux enterrements successifs de deux personnes de la même famille, donc époux et femme. Il y a des gens, bon, il y a toujours évidemment quelqu'un qui est pété et qui fait une petite dispute et ça termine en autre boudin. Et ce que Jean Alouche disait qui est très très joli, c'est parce que la mort en fait est absurde et le burlesque, l'humour du burlesque est une façon d'y répondre. Et moi j'ajouterais à Jean Alouche, et non seulement l'humour du burlesque est une façon d'y répondre et de répondre à l'absurdité, mais c'est aussi une façon de renouer avec la vie. On recommence à rire, quoi. Et donc, je pense que c'est vrai qu'il y a plein d'humour. Et je veux dire, moi, tous les enterrements où je suis allée, il y a eu de l'humour, même quand j'étais très triste. L'enterrement de mon père, l'humour, c'est que je devais suivre le corbillard pour aller jusqu'à un endroit que je ne savais pas où ça se trouvait. Et j'ai égaré tout le monde. Quand j'étais la première. Le corbillard est parti, j'ai eu un moment d'absence, comme ça peut m'arriver. Et puis, je suis partie, là, en me disant, croyant voir que c'était le corbillard, et on s'est retrouvés en rase campagne au milieu de nulle part. Avec le corbillard qui nous attendait au funérarium, papa a failli brûler tout seul.
Oui, le monde du funéraire, c'est vraiment un monde assez fascinant. Et quand on travaille dans ce monde-là, je veux le dire, on croise des personnes vraiment extraordinaires. Donc, je crois que votre BD, je ne sais pas qui c'est, est là-dessus. Vraiment, moi j'ai travaillé que 2 ans dessus et je suis aussi soulagée de plus travailler dessus, mais j'ai énormément d'admiration pour les personnes qui font ça au quotidien. Et c'est vrai que ça développe dans ce milieu-là, qui est un peu un monde parallèle, tout un humour, parce que forcément on est confronté chaque jour à des sujets extrêmement matériels, en fait. Et quand on, voilà, quand on traite de mort, par exemple, à Paris, il y a environ une cinquantaine de personnes qui meurent chaque jour. Donc, il y a énormément de problèmes matériels parce que vous êtes contraints par le temps, par les lieux. Vous devez enterrer dans les deux semaines. Il n'y a plus assez de créneaux au crématorium. Les personnes arrivent de l'étranger. Ils ne sont pas d'accord, évidemment, sur où enterrer la personne. Et en fait, il y a tout le temps des conflits. Il y a des problèmes absurdes, effectivement, voilà, tout ne peut pas être parfait en fait quand on gère un enterrement, et donc c'est tout ce monde-là qu'on découvre quand on travaille dans le funéraire qui est intéressant et qui encore une fois reflète le reste de la société. Moi aussi je me rappelle d'une exhumation à laquelle j'ai assisté, j'étais assez curieuse hein, de voir comment ça marche. C'est le métier des fossoyeurs qui préparent les tombes et qui exhument. Et donc, c'était un squelette assez lointain. Et donc, ils exhument. Alors, on ne sait jamais sur quoi on va tomber quand on exhume un corps. Et là, donc, il y avait quelques os. Et puis, on tombe sur une chaussette qui était vraiment nickel. Et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça. Ce qui reste vraiment en meilleur état et tout, c'est la chaussette, quoi. Et voilà, en fait, c'est tout le temps ça, le funéraire, c'est des surprises, des choses un peu absurdes, mais vraiment aussi des professionnels qui sont assez extraordinaires et qui sont beaucoup trop peu valorisés et trop peu payés, au passage.
J'ai reçu un mail juste après d'avoir, un peu après d'avoir écrit au Bonheur des Morts, et c'était une dame, Marie-Laure Deschamps. Elle m'a permis de donner son nom parce que je lui ai tout de suite réécrit pour dire est-ce que je peux parler de votre histoire, parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc sa maman était une grande voyageuse et avait demandé à ce que ses cendres soient dispersées dans un désert. Mais elle n'a pas précisé lequel. Et donc sa fille décide que le plus beau désert, c'est le désert j'ai un petit trou de mémoire. Toujours est-il qu'elle fait des démarches en an pour obtenir le droit de transporter les cendres de sa mère jusqu'en Afrique. Et après un an de démarche, elle part en Afrique avec son compagnon et son fils. Ils arrivent dans la capitale, ils louent une voiture, ils vont à l'hôtel et ils vont le lendemain aller dans le désert. Et pendant la nuit, quand ils arrivent le matin, qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert leur coffre, on a piqué les valises et les cendres de maman. Et elle dit au rage, au désespoir, évidemment, etc. Et puis, et c'est là où l'humour reprend le dessus. C'est extraordinaire. Et elle dit, mais finalement, elle dit, bon, je vous ai lu maintenant. Et est-ce que maman n'en a pas profité pour faire une dernière fugue? Et ça, je trouve que c'est des choses très jolies où les conditions matérielles dans lesquelles, voilà, une fois qu'elles sont, voilà, qu'on est paisible avec la question, d'une certaine manière, les conditions matérielles deviennent elles-mêmes des sources et d'humour et de décalage et des choses comme ça. Il y a un très joli film que j'ai vu je ne sais pas si vous avez vu, ça s'appelait Still Life en anglais. C'est un auteur, il a un nom italien, c'est Pasolini, mais ce n'est pas le Pasolini que vous connaissez, c'est un autre, je ne sais plus, c'est Hugo, je pense. Et en français, c'était traduit par Une si belle fin. Et c'est de l'histoire. C'est le plus beau film que j'ai vu sur la question des cérémonies d'hommage et tout. C'est un employé de la municipalité d'une ville anglaise qui a comme travail, quand un mort meurt seul, un peu comme ces associations dont vous parlez, il est chargé d'aller chercher dans les papiers du mort ce qui lui permettra de faire une cérémonie d'hommage afin que ce mort ne parte pas sans mots. Et puis, il va tomber sur le mort récalcitrant qui va complètement bouleverser sa vie. Je vous assure, moi, je suis pas. Oui, je suis neuneux, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais c'est d'une. Pleurer devant la beauté, je veux dire, du geste filmique et de l'histoire, de la narration et du risque que prend le réalisateur. Donc, une si belle fin en français.
Et juste pour peut-être revenir à un tout petit échantillon sur la Chine, les processions funéraires, les d'enterrement en Chine, c'est quelque chose d'extrêmement joyeux. Il y a des orchestres de campagne avec des instruments, des cornemuses, des tambours, des percussions. C'est extrêmement joyeux, les gens dansent. Et souvent, quand on a un peu d'argent dans les campagnes, les paysans enrichis louent quelques pin-up qui viennent danser en mini-jupe sur une petite plateforme de la roulotte qui est suivie par toute la procession à travers les chemins de campagne. Et voilà, donc tout est mélangé et on est vraiment dans une célébration de la vie et peut-être... des passions du mort, c'est pour les pin-up, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours quelque chose d'extrêmement joyeux. Oui.
Merci à toutes les trois. J'ai 40 questions que j'aurais aimé vous poser, mais ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble sur cette scène et ça passe vite. Et peut-être qu'il y a des questions dans la salle. On peut en prendre une ou deux. Il y a un monsieur là-bas et une dame tout au fond.
Oui, mais merci beaucoup pour voilà, tout ce que vous apportez. Il y a un mot qui m'est venu comme ça, c'est celui de paradoxe. C'est-à-dire, pour moi, la notion de paradoxe, c'est comment est-ce qu'on tient des choses antagonistes ensemble et sans... Bon, j'ai la référence à Winnicott, si ça vous dit quelque chose, mais c'est-à-dire sans vouloir absolument résoudre les choses. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous disiez, est-ce que c'est les morts qui nous parlent ou est-ce que c'est on a une disposition qui fait qu'on est plus réceptif, enfin, quelque chose comme ça. Est-ce que on le connaissait pas? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut finalement rassembler les morceaux et sans réduire un mort à une identité, c'est-à-dire restituer quelque chose de la complexité. Et puis bon, ça c'est la première chose, la question du paradoxe. Et je trouve que à l'époque où nous vivons, on est plus dans l'identitaire, c'est-à-dire qu'on veut réduire à tuer cela, c'est-à-dire quand on dit tuer cela, on le tue d'ailleurs, hein, l'autre. Bon, ça c'est Lacan. Bon, mais autre chose, juste, je vais faire court. Oui. Vous avez dit tomber amoureux. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours tomber amoureux? Ça, c'est une question. Hein. Pourquoi est-ce qu'on tomberait quand on est amoureux? La chute, peut-être, quelque part, là, en arrière-plan. Et puis, dernière chose, et puis après, je m'arrête. C'est une question récurrente et en même temps qui est questionnée énormément dans l'air du temps et même ici, c'est-à-dire la question d'un lieu pour les morts. C'est-à-dire que beaucoup se disent, tiens, on disperse les cendres dans... Voilà. Et, ou alors, il y a des inhumations qui ont lieu en pleine forêt, même si ce n'est pas du tout légiféré. Voilà, c'est une question. Est-ce que la question d'un lieu symbolique, bon, moi j'entends toute la question des rituels, hein, et comment, bon, les mâles morts, ça me parle aussi, bon, hein, et comment on les éduque, je trouve que c'est très beau comme formule. Voilà, j'arrête.
Et alors là, vous avez 2 minutes.
Je vais juste me tenir à tomber amoureux, moi. C'est juste tomber amoureux, j'y tiens. J'y tiens vraiment beaucoup parce que c'est vraiment c'est l'idée du piège. J'adore l'idée que l'amour soit un piège parce que c'est le moment où on se dépossède de soi-même. Et donc, je tiens à cette perte complète de l'idée de la maîtrise du contrôle et de l'idée que tout vient de nous et de notre bonne volonté ou mauvaise volonté. Donc, tomber amoureux... Je garde, je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour tomber amoureux. Et puis le lieu, je crois que c'est Marion qui peut nous en parler, probablement mieux que moi. Merci en tout cas pour vos questions. Et pour le paradoxe, ben oui, moi en fait c'est pour ça que j'ai continué cette recherche, c'est quand j'ai remarqué qu'il y avait... J'appellerai pas ça un paradoxe parce que j'ai peur de renouer avec le contre, l'opinion, etc. Les gens en fait, ils en font vraiment... c'est vraiment un style. C'est un style d'histoire, quoi. Ils ont créé une technique narrative, tous... qui leur permet de dire une chose et son contraire et de tout le temps circuler entre les deux. Et c'est ça qui rend l'histoire vivante et qui garde l'histoire absolument vivante. Et je pense que même si ce n'est pas aussi explicitement délibéré, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'entretien de l'histoire, du maintien, du soin à l'histoire.
Et juste, alors moi, je rebondis juste sur ce que dit Vinciane avant de repasser la parole à Marion, c'est que le paradoxe, c'est aussi quelque chose d'assez culturel et que dans le monde chinois... ou dans le monde asiatique, la notion de paradoxe, elle n'apparaît pas justement parce que tout est ensemble, tout fait partie d'un grand tout et il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là. Voilà, donc tout est possible, le tout est possible.
Oui, sur les lieux, je pense qu'on doit vraiment s'inspirer d'exemples étrangers pour voir comment ça pourrait être autrement. Je parlais des cimetières forêts tout à l'heure. Je pense que vraiment toutes les municipalités peuvent développer des nouveaux lieux d'abord pour les cérémonies. Hein, j'évoquais les théâtres tout à l'heure. C'est vrai que pour les cérémonies, en fait, on peut le faire à peu près où on veut, mais souvent on ne le sait pas. Et donc, pour éviter les lieux commerciaux, parfois trop chers pour les familles, je crois que c'est vraiment le rôle des municipalités de mettre à disposition différents lieux qui peuvent être les salles municipales, mais qui pourraient être des lieux d'un nouveau type. Des beaux lieux pour les rituels et puis il y a vraiment toute cette demande autour des lieux naturels, soit où on peut faire des cérémonies, soit où on peut disperser les cendres. Alors c'est très compliqué, hein, pour disperser les cendres, il y a une liste de lieux On peut dans certaines étendues d'eau, d'autres non. Donc il y a tout un travail de démocratisation de ces sujets-là qui doit être fait et juste d'information pour qu'on sache en fait tous les possibles et qu'on trouve ce qui nous convient le mieux.
Il y avait une question là-bas.
Bonjour, merci beaucoup pour cet échange, cette table ronde très vitalisante. Une question qui doit être courte. On est un festival engagé, donc il y a beaucoup de tables rondes sur la mort, mais aussi sur l'environnement. Je vois quel lien vous faites entre la mort, le vivant et la crise environnementale que l'on traverse. C'est-à-dire que j'ai vu le livre de Nelly Ponce sur le grand épuisement, donc l'épuisement de la terre, l'épuisement de la ressource. Elle fait le parallèle avec l'épuisement des humains à travers l'épidémie de burn-out, par exemple. Et là, comment est-ce que vous faites le lien entre, si vous en faites un, le lien entre justement le vivant, la terre qui se meurt, et les questions de la mort que vous abordez? C'est peut-être un peu éloigné, mais j'entendais que vous parliez de tous ces lieux qui sont très minéralisés et qu'on pourrait faire les cimetières forêts. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien. Telle était ma question que j'ai essayé de raccourcir le plus possible. Je vous remercie beaucoup pour vos témoignages.
Bon, la seule chose que je pourrais dire, c'est que dans la vision taoïste et chinoise, l'homme n'est pas séparé de la nature et fait partie intrinsèquement de la nature, du cosmos, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde les peintures des Ming, les peintures de paysages, on a une présence magnifiée de cette nature qui est immense, et l'humain apparaît en minuscule complètement. D'ailleurs, on a parfois du mal à le repérer. Il est infiniment petit et intégré dans cet immense ensemble. Alors que nous, dans notre manière d'aborder la nature, on en parle comme si elle était séparée de nous et qu'il fallait donc la protéger parce qu'on en est séparés. Donc c'est cette grande différence qui peut avoir aussi une influence sur notre vision de comment se relier à la mort, quelque chose qui serait séparé de nous, d'extérieur à nous. Voilà, Dieu a créé la nature, Dieu a créé l'homme, mais il n'a pas créé l'homme au sein de la nature. Donc il y a cette immense différence de point de vue qui ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, mais qui fait que la notion de mort en Chine, par exemple, est abordée très très différemment parce qu'elle est elle est intrinsèque.
Oui, le lien, il est très fort, hein. Aujourd'hui, là, vraiment, moi, je suis frappée par la demande citoyenne sur les sujets écologiques en lien avec la mort. Moi, j'ai reçu énormément de messages suite à mon livre, de collectifs qui défendent par exemple l'humusation, donc le fait d'être transformé en compost. Il y a beaucoup de personnes qui expriment le souhait de qu'il y ait un arbre qui soit planté au-dessus de leur tombe. C'est vraiment très fort. Il y a aussi tout le sujet des animaux de compagnie qui est très très présent dans la société. Et donc ce n'est pas du tout un hasard que tous ces sujets reviennent là, finalement en lien avec aussi la baisse des pratiques religieuses. Je crois qu'il y a, cette envie finalement d'être relié quand on décède à quelque chose de plus grand que soi, où on met le terme nature, où on met ce qu'on veut, mais en tout cas l'envie de ne pas dégrader encore plus l'environnement quand on meurt. Et ça renvoie à des sujets très pratiques à nouveau, puisqu'il se trouve que le secteur funéraire, comme tous les secteurs industriels, est très polluant parce que en fait... Pour enterrer, pour les cercueils, c'est une industrie qui n'a pas encore fait sa transition écologique. Aussi, tous les produits qu'on injecte pour conserver les corps, ils ne sont pas du tout écologiques, ils posent des problèmes de santé, hein, pour les personnes qui pratiquent les soins funéraires. Donc en fait, ça pose énormément de questions sur les matériaux qu'on utilise. Donc il y a quelques expérimentations aujourd'hui en France, mais ça reste franchement assez faible, de carrés écologiques dans les cimetières où on va utiliser moins de matière entre la terre et les corps. Et je suis convaincue que les pratiques et la législation vont bouger sur ces sujets-là à l'avenir parce qu'il y a vraiment une très forte demande.
Moi, je vais partir par une toute autre... Peut-être préciser qu'on ne parle pas tellement de la mort ici, hein, même si on a dit le mot. On a parlé des morts. C'est vrai, c'est, la mort, c'est un tout autre sujet. C'est autre chose. Et que donc, c'est un rapport avec les morts qui nous intéresse, tant Marion que Sandrine. La première chose. La deuxième chose, alors là, je vais lancer des pistes comme ça, mais comme elles viennent tous les deux de le faire, et ce sera juste que la question, par exemple, je reprendrai une question, par exemple, de Judith Butler, c'est finalement, est-ce que le fait de ne pas pleurer une vie, de ne pas lui reconnaître le chagrin, quel qu'il soit, ce n'est pas déjà nier le fait que cette vie ait pu avoir de l'importance. Et que donc, la question, c'est une arme de guerre de ne pas permettre d'enterrer les morts. Bien sûr, c'est une façon de dire, vous allez vous retrouver avec des fantômes, des disparus, mais aussi, c'est une façon de dire, cette personne n'existait pas, ne valait pas la peine, puisqu'elle ne mérite pas les rituels. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et la question se pose aujourd'hui à propos des extinctions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on donne une certaine manière, comment est-ce que, et ça se pose aussi pour les gens qui meurent en mer et dont personne ne retrouve les corps, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes après pour dire qu'elles ont une existence. Et pourquoi c'est important? Parce que politiquement, dire ces personnes ou ces êtres qui disparaissent ont eu une existence et elle a importé, même si c'est a posteriori qu'on le reconnaît, je pense que c'est important pour le futur de ceux qui vont suivre, enfin, qui vont se retrouver dans les mêmes circonstances, extinction, exil dramatique, refus aux frontières, etc. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour permettre aux héritiers, d'une certaine manière, héritiers dans tous les sens du terme, héritiers de situation, quoi, de tous ces morts qui ne sont pas honorés, dont on nie l'existence par le fait même de ne pas reconnaître leur mort, pourrait faire quelque chose qui ferait changer et pour les migrants, et pour les espèces en voie de disparition, et pour tous les vivants, parce que je ne peux pas mettre les vivants sur des hiérarchies préétablies.
Je pense que, juste pour compléter peut-être, c'est aussi une des fonctions de la tombe du soldat inconnu, c'est-à-dire que c'est une tombe qui célèbre tous ces inconnus, tous ces disparus pendant la guerre de 14, et donc c'est un grand rituel collectif et sociétal, et avec une dimension politique, qui répond aussi à cette demande face à un deuil collectif très important. Oui.
Merci à toutes les trois pour ces échanges. Vous nous avez montré que les morts, ils sont aussi très présents. Et on les a invités avec nous à cette table ronde, donc bravo à vous.
Vous avez aimé cet épisode ? Vous aussi essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt !